C'est de la délation, une chasse à l'homme, un lynchage médiatique pour les uns, la défense de l'intérêt général, la simple application du droit de savoir pour les autres. Que révèle précisément l'affaire, les affaires rugies des mœurs politiques françaises et du rapport de nos institutions ou de nos élus aux médias? Quelles sont les failles du système qui a déjà été réformé de nombreuses fois, sous la pression d'ailleurs à chaque fois des révélations de la presse? Loi sur la transparence de la vie publique en 2013 après l'affaire Cahuzac, loi pour la confiance dans la vie politique en 2017 après l'affaire Fillon, mais de quelle transparence et de quelle confiance parle-t-on? Jusqu'où doivent aller les contrôles de nos ministres, parlementaires et de leurs collaborateurs, des élus de la République en général et des hauts fonctionnaires? Autant de questions et d'autres dont nous allons débattre avec Christine Pires-Beaune. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Députée PS du Puy-de-Dôme, membre de l'Observatoire de l'éthique publique, un think tank fondé et présidé par René Dosière, qu'on connaît bien pour ses combats pour faire évoluer toutes ces pratiques politiques. Avec nous également Tris Acatrinet, fondatrice et gestionnaire de l'organe de contrôle de la vie parlementaire, Projet Arcadie. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est un site internet que vous avez fondé en 2015 et qui recense toutes les informations concernant les parlementaires. Avec nous aussi Yael Gauz, chef du service politique de France Inter. Bonsoir.
Bonsoir Yves.
En ligne avec nous tout à l'heure un journaliste néerlandais qui nous dira les pratiques qui sont en vigueur dans son pays, pratiques évidemment très différentes des nôtres. Vie publique, la transparence à tout prix, point d'interrogation. C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions au 01 45 24 7000.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Et pour commencer, notre premier auditeur, c'est Guy, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Guy.
Oui, de Villeneuve-sur-Yonne, voilà. Donc, bravo, merci d'être là pendant les vacances. Ce que je voulais dire, la transparence, merci, c'est un plaisir. La transparence, on l'exige, le public le veut, on a vu les gilets jaunes, et je ne suis pas gilet jaune, mais je les comprends. Quand on voit que pour soulever une affaire, bien sûr, comme Cahuzac, Fillon, vous l'avez dit, actuellement Rugy, il faut là que Mediapart, lanceur d'alerte, je suis très content qu'ils le fassent, d'ailleurs c'est peut-être pas leur fonction, mais ça fait partie de leur devoir d'information, de faire des lancements d'alerte, c'est dire voilà, ça va pas, nous avons une république qui est mal perçu dans les pays nordiques de l'Europe, vous verrez avec le collègue néerlandais, car on passe pour une république bananière. On a soi-disant supprimé les privilèges en 92, je crois, le 4 août, et qu'est-ce qu'on voit? Des tas de petits roitelets, des petits princes, président de conseil de ci, de ça, donc ça va bien, et ensuite donc je dis bravo. Alors ma question est la suivante, est-ce qu'on peut pas prévoir au sein de la République, du gouvernement, un ministre qui s'occupe de ça? J'ai lu le livre de René Dosière qui était effectivement un document formidable, mais il sert à rien, il a tout soulevé, tout relevé, et effectivement ça sert pas à grand chose.
Merci.
Ça continue.
Merci Guy, donc tout le travail de René Dosière n'a servi à rien. Christine Pires-Beaune, je rappelle que vous travaillez au sein de l'Observatoire de l'éthique publique qu'il a fondé, René Dosière.
Oui, qu'il a fondé récemment, l'Observatoire est très récent puisqu'il date de 2018, et ce qu'on peut noter, c'est que cet observatoire, il agrège en fait des universitaires partout en France et quelques parlementaires. Et non, le travail de René Dosière n'a pas servi à rien, puisque grâce à son travail depuis des années et des années, il est bien connu pour ça, on a quand même avancé. Alors c'est vrai, on parle des brebis galeuses, on parle de ce qui va pas, et c'est normal, mais il faut regarder aussi d'où on part et ce qui s'est fait ces dernières années. Et moi, j'aime quand même à le rappeler.
C'est aujourd'hui, au moins, tout cela se sait, tout cela est mis sur la place publique.
Le premier enseignement, c'est ça, c'est que ces affaires-là, elles sortent, qu'il y a des sanctions, et c'est une bonne chose.
Tris Acatrinet.
Je vais rejoindre Madame Pires-Beaune. On ne peut pas dire que le travail de Monsieur Dosière n'a servi à rien, parce que non, il a vraiment, pour le coup, ça fait vraiment partie des parlementaires qui ont travaillé sur ces questions de façon sérieuse.
Et vous êtes dans la continuité avec votre plateforme internet?
Oui, on peut le dire.
En quelque sorte.
Maintenant, monter un ministère qui serait chargé de chapeauter tout ça, c'est pas une bonne idée, et je vais expliquer pourquoi. Parce que, en gros, ce serait un ministère, ce serait donc une entité du gouvernement qui serait chargée de contrôler le même gouvernement.
Qui serait jugé parti.
Et qui, en plus, séparation des pouvoirs oblige, ne pourrait pas non plus contrôler les parlementaires. Donc en fait, ça sert à rien. Donc en fait, il faudrait peut-être effectivement un organe, mais totalement indépendant du pouvoir. Et j'ai peut-être une idée de comment on pourrait appeler ça. Ça s'appelle la presse.
Mais Yael Gauze. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a le même problème pour l'hôtel de Lasset, pour la présidence de l'Assemblée, puisqu'au début des révélations de Mediapart, on disait, mais pourquoi la déontologue ne se penche pas sur les dépenses somptuaires, visiblement, du président de l'Assemblée? Bah, elle ne le peut pas, elle était nommée par lui, par le président de l'Assemblée.
Et c'est pas prévu par les textes.
Il y a, là, il y a effectivement, sur la présidence de l'Assemblée, une zone grise, un trou, des comptes qui ne sont pas épluchés dans le détail. Effectivement, là, il y a un manquement. Après, c'est vrai que on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide dans ce genre de moment de sidération comme ça, d'hystérie médiatique. Mais prendre un petit peu de recul, c'est nécessaire. Vous disiez, Madame Pires-Baume, qu'il y avait beaucoup même des progrès depuis. Depuis quelques années, l'affaire Cahuzac, vous le disiez, Yves, depuis 2013, on a vu émerger un parquet national financier qui n'existait pas avant, qui a commencé à travailler le 1er mars 2014, qui s'est saisi de l'affaire Fillon, et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avril 2013, là aussi consécutive à l'affaire Cahuzac, et puis cette loi de 2017 pour la confiance dans la vie politique, où désormais les emplois familiaux, ben ils sont scrutés à la loupe. Hein. On regarde si un parlementaire embauche quelqu'un de sa famille, et ce n'est plus possible, et les candidats à la présidence ont l'obligation de déclarer leurs intérêts en plus de leur patrimoine.
Et à chaque fois, ce que disait Guy, c'est qu'à chaque fois, il faut des révélations de la presse.
Ce qu'on peut regretter, c'est ça, c'est qu'on légifère à chaque fois parce qu'il y a eu une affaire. Alors qu'il faudrait légiférer, j'allais dire, à froid et pas à chaud.
Autre question de Pierre. Pierre qui nous appelle de quelque part en Bretagne.
Allô, oui, bonsoir.
Pierre, nous vous écoutons.
Bonsoir France Inter. Donc d'abord un témoignage, j'ai été maire d'une petite commune de moins de 1000 habitants pendant près de 25 ans, indemnité mensuelle à peine 800 euros, et je dois défendre les élus des petites communes parce que eux ne se mettent rien de côté, au contraire, ils sont très souvent de leur poche. Alors, concernant les élus nationaux, que j'ai côtoyés aussi à de nombreuses reprises, que ce soit les parlementaires en particulier, première proposition, c'est qu'on limite les indemnités au salaire d'un cadre moyen, c'est-à-dire 3 000, 3 500 euros. On me réfute qu'il n'y aura peut-être plus de candidats. Si, il y aura toujours des candidats, mais des candidats qui seraient plus intéressés par l'aspect financier. Donc, première chose. Et deuxième chose, je pense que les conjoints, les enfants, la famille en quelque sorte, ne soient pas du tout associés ni aux réunions, ni aux repas, ni à la voiture de service, enfin, aux fonctions. Donc, que ce soit parfaitement transparent et un contrôle très strict des dépenses, par exemple les députés ou les sénateurs.
Alors, Pierre, dont on croit Pierre, à l'indemnité. Pierre, une question malgré tout. Vous pensez que les élus sont intéressés par les traitements qu'ils vont recevoir? Vous pensez que c'est leur motivation?
Tout à fait. Et pour avoir côtoyé un certain nombre d'élus à tous les niveaux, je peux vous dire que on peut pas évacuer cette question. C'est une opportunité pour certains de gagner quand même mieux que ce qu'il y a dans leur vie. Donc, je pense que l'élu doit rester humble, modeste et au niveau des gens qui vivent autour de lui.
Merci, voilà. Merci Pierre pour votre question. Alors, précision malgré tout nécessaire, le montant net mensuel d'un député, du traitement d'un député, c'est autour de 5 700 euros. Alors, auxquels viennent s'ajouter évidemment tout un tas de défraiements, hein, frais de mandat et de secrétariat. Donc, avance de frais de mandat,
5 373, voilà, la fameuse enveloppe qui sert à fonctionner et uniquement à fonctionner dans le cadre de son mandat et qui défraye la chronique aujourd'hui.
Voilà, parce que normalement, vous êtes censé fournir des justificatifs depuis la précédente loi.
Hein. Tout à fait. On est censé les fournir. C'est pas on est censé, on les fournit. Personnellement, je fais partie des tirés au sort pour le contrôle des frais 2018. Donc, j'ai porté toutes mes factures de l'année 2018 chez le déontologue et on aura un verdict sur 125 députés, je crois, ou 140, je sais plus, en fin d'année. Sachant que maintenant, c'est une obligation. Moi, je suis élue depuis 2012. Je peux porter chez le déontologue toutes mes factures depuis 2012.
Et à tout ça s'ajoute la rémunération des collaborateurs.
Hein, pas l'argent des députés.
Qui n'est pas l'argent des députés, c'est pour payer ses collaborateurs. Plus de 10 500 euros à peu près.
Brut, oui, tout à fait.
Parmi ses collaborateurs ne doivent pas figurer ni les conjoints, ni les enfants depuis l'affaire Fillon.
Tout à fait, et c'est une bonne chose également.
Je vous voyais tiquer à la remarque de notre auditeur Trissa Catrinet.
Oui, parce que dire que les élus sont, en gros, si j'ai bien compris, le propos est de dire qu'une bonne partie des parlementaires sont là pour des questions d'argent. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a épluché toutes les déclarations d'intérêt des députés, sans aller jusqu'à dire que je les connais par cœur, en termes de rémunération, à un temps de travail équivalent, ils gagneraient tous beaucoup mieux leur vie dans le privé. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un député, alors je laisse Madame Pires-Beaune me corriger, quand on a fait avec Nicolas Quesnel le deuxième rapport sur l'activité réelle des députés, la plupart des députés nous ont indiqué travailler entre 50, et encore celui qui nous a dit 50, il s'est présenté lui-même entre guillemets comme un paresseux, entre 50 et 100 heures de travail par semaine. Parce qu'un député, ça ne décroche jamais. Parce que du lundi à peu près au jeudi, eh ben, il est à l'Assemblée. Ensuite, le jeudi, il retourne en circonscription et il fait des inaugurations. Il va au kermesse, il va donner des fleurs. Et à aucun moment, il a un espace à lui. Parce qu'une fois qu'il rentre chez lui, ben non, il se met pas devant la télé, il regarde pas un film. Les trois quarts du temps, ben, il répond aux mails, il répond aux sollicitations diverses et variées. Parfois, il va sur les plateaux télé. On se le figure pas, mais faire des passages médias, c'est aussi du travail, c'est aussi beaucoup de temps. Et je l'expérimente moi aussi, hein, donc je parle en connaissance de cause. Donc dire que les élus le font parce qu'ils sont intéressés par l'argent, la plupart, ils gagneraient beaucoup mieux leur vie dans le privé. Donc la rémunération des parlementaires, c'est vrai qu'elle est élevée. Elle est élevée par rapport au salaire moyen. C'est pas la plus élevée des parlementaires en Europe. Les Allemands sont beaucoup mieux rémunérés que les Français sur ce point de vue-là. En fait, on est même dans la fourchette basse. Parce que ce qu'on a fait avec Nicolas Quesnel, c'est qu'on a regardé les indemnités des parlementaires dans l'Union européenne et par rapport au salaire moyen et médian, pour voir à peu près on était à combien. Pour la France, c'est 2,5 par rapport au salaire médian et moyen en France. En Allemagne, il me semble que c'est 3 ou 4. Roumanie, on a pété tous les scores, on a fait 5. Ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Luxembourg, c'est pareil, hein, c'est 3 ou 4. Donc non, on est sur la fourchette basse.
Alors d'où vient de votre point de vue ce sentiment qu'ont beaucoup de gens, parce qu'on l'entend souvent dire, que les députés, les élus, de façon générale, sont beaucoup trop payés?
Parce qu'ils connaissent pas le boulot des députés.
Je crois que les personnes ne savent pas ce qu'est le mandat de député. Mais bon, ce monsieur est élu, et il a raison de le dire, élu dans une petite commune de moins de 1000 habitants. Les indemnités des élus des petites communes, au regard de ce qui est leur charge, sont nettement insuffisantes.
Oui.
Et donc, qu'il soit peut-être choqué par la rémunération, moi je peux vous dire le meilleur témoignage, c'est peut-être celui de mon fils qui est ouvrier. Un jour, il est rentré, il m'a dit, bah, tu sais, si je rapporte ton indemnité au nombre d'heures que tu fais, en tant qu'ouvrier, je suis nettement mieux payé que toi.
Mais c'est peut-être parce que tout cela n'est pas assez transparent, Yael Gauz.
Oui, puis il y a un rapport à la distance par rapport à votre élu. Dans toutes les enquêtes d'opinion, régulièrement, on voit à quel point les Français sont attachés à leur maire, à leurs élus locaux. Mais parce que c'est concret, c'est direct, ils voient bien le maire, ce qu'il fait tous les jours pour la commune, le temps passé, les heures passées, les week-ends passés pour une indemnité dérisoire. Par contre, le député à Paris, effectivement, bah, c'est très rare de l'accompagner pour aller le voir, faire son travail, ces séances nocturnes. Donc il y a évidemment une plus grande distance, et plus il y a de distance, moins il y a de compréhension et plus il y a de défiance.
Et puis il reste une grande opacité. J'ai vu, Christine Pires-Beaune, que vous aviez envoyé des questions écrites à Matignon.
Oui, vous en avez dans le cadre de l'Observatoire.
Voilà. Et que ces questions ont été partiellement renseignées par Matignon. Oui. Elles portaient sur les frais de représentation des ministres et le train de vie des cabinets.
Oui, alors
pourquoi ne pas mettre tout sur la table?
Ces questions, elles revêtent un caractère un peu particulier compte tenu du contexte, mais elles ont été posées, je préfère le dire, au mois de janvier 2019, hein, et pas maintenant. Alors, par contre, moi, je salue le Premier ministre qui a donné quand même des éléments qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui le montant de l'enveloppe des frais de représentation, des frais professionnels, entre guillemets, d'un ministre d'État, d'un ministre près d'un ministre d'État et d'un secrétaire d'État. Ce qui n'était absolument pas connu jusqu'à présent.
Bien plus élevé que pour les députés. Hein.
Bien plus élevé, puisque c'est 12 500 par mois. Ça, c'est bien. Mais par contre, il y a toujours des zones d'ombre, des zones grises, sur notamment les cabinets ministériels, par exemple. Et sur le train de vie des cabinets ministériels, on n'a obtenu aucune information. Sur certaines autres questions, c'est pareil. Donc, on va repartir... On va relancer jusqu'à ce qu'on obtienne des réponses légitimes.
Alors, on disait tout à l'heure que la France, c'est un petit peu une curiosité. Hein, quand vous pensez que, par exemple, que dans certains pays, en Suède, par exemple, tout le monde peut avoir accès à tous les documents publics sur simple demande, la déclaration fiscale d'un ministre, le salaire d'un patron.
Non, vous allez sur Internet, vous avez tout, mais de tout. Voilà. C'est pas que les élus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une interface web. Vous tapez le nom, le prénom, l'année de naissance et vous avez tout. Voilà. Je l'ai fait, en fait.
Une base informatique centrale est consultable dans beaucoup de pays du Nord hein, pour toutes les notes de frais qui sont payées par de l'argent public. Nous avons en ligne un journaliste néerlandais, Stéphane de Vries, correspondant à Paris d'Euronews et d'RTL Pays-Bas. Bonsoir Stéphane de Vries.
Bonsoir.
Chez vous, François de Rugy, j'imagine, aurait immédiatement quitté le gouvernement dès les premières informations de Mediapart.
Si les informations étaient vraies, oui, absolument, il n'aurait pas pu rester 2-3 jours. Mais bon, même ici, 5-6 jours, c'est assez rapide quand même.
Oui. Un simple article de presse suffit chez vous, sans attendre l'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est comme ça, c'est la tradition.
Si un article de presse est nécessaire, ça veut dire que le ministre ou le secrétaire d'État ou le parlementaire a caché quelque chose, puisque toutes les dépenses, a priori, sont publics, donc il n'y a pas de raison de cacher des dépenses. Donc on sait très vite quand un ministre ou un homme politique abuse l'argent public pour son amusement son personnel.
Et vous comprenez les critiques dont Mediapart a fait l'objet ces derniers jours, ce lynchage médiatique qu'on lui reproche d'avoir organisé?
C'est une défense très facile et très classique. On attaque le messager et rarement le message, parce que je pense que Mediapart a fait son travail. Il y a dans une démocratie un contre-pouvoir, c'est les médias, normalement. Et je pense que ici, Mediapart a juste fait son travail. Ensuite, je ne suis pas sûr que François de Rugy a fait des choses vraiment illégales. C'est un peu difficile. Je ne sais pas s'il aurait dû... d'un point de vue légal, aurait dû démissionner, mais il y a un point de vue moral qui est beaucoup plus important, à mon avis, et je pense que Mediapart a juste fait très bien son travail.
Mais alors, les journalistes de Mediapart expliquent que ce n'est pas parce que les informations, effectivement, ne déboucheront pas forcément ne sont pas forcément qualifiables pénalement qu'elles ne sont pas importantes et pertinentes.
Non, c'est vrai, mais le cadre est très difficile à dessiner, parce qu'en France, on a l'habitude des hommes politiques qui font des dîners aux frais de l'État, aux frais du contribuable. Par exemple, je me souviens très bien quand il y avait un président normal qui se déplaçait en scooter avec sa maîtresse illégitime, que ça, c'était un scandale, parce qu'un président n'a pas à se déplacer en scooter. Aux Pays-Bas, le Premier ministre, il se déplace à vélo, et pour cette raison, il est très populaire, il est très aimé, mais en France, ce serait inconcevable. Donc, c'est très difficile à dire que, en effet, légalement, il n'y a peut-être pas de problème, mais moralement, il y a un autre problème. Peut-être il y a 10 ans, ou 15 ans, je ne sais pas, ça n'aurait pas posé ce problème en France. Mais aujourd'hui, on est dans un autre contexte, surtout le contexte des Gilets jaunes aussi, mais aussi l'accessibilité, l'information est partout, tout de suite. Et donc, le contexte a changé, et j'ai vraiment l'impression que les hommes politiques, eux, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas compris que les temps ont changé. On a vu exactement la même défense avec François Fillon il y a 2 ans, au début du scandale avec sa Pénélope et les emplois fictifs. Il a tout de suite dit, mais en fait, tout le monde fait ça comme ça, donc moi, j'ai rien fait de mal. Et donc, François de Rugy a eu la même défense, donc je pense que les hommes politiques français ont vraiment un train de retard.
Voilà, vu de chez vous, vu des Pays-Bas, la France est un peu... c'est la préhistoire.
J'irai pas jusque-là, mais il y a une autre morale, il y a une autre histoire politique en France, il y a... C'est une société beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus hiérarchique que les sociétés des Pays-Bas ou la Belgique ou la Scandinavie, où le peuple contrôle réellement le pouvoir. Aux Pays-Bas, un homme politique, il n'est pas mieux que les autres. Ici, très rapidement, les politiques se sentent un peu au-dessus du peuple. Et donc, c'est pas vraiment très comparable. Je pense qu'un homme politique aux Pays-Bas, il sait très bien qu'il est payé par l'argent public. Et donc, dans le mot argent public, il y a déjà public. Le public sait très bien qu'il s'agit de son argent. Parfois, j'ai l'impression qu'en France, quand on parle d'argent public, pour le français lambda, c'est très abstrait, c'est de l'argent de l'État, donc ça ne me concerne pas. Donc, du coup, il y a une plus grande distance entre la perception de ce que peuvent et peuvent pas faire les hommes politiques qu'aux Pays-Bas et en Scandinavie.
Stéphane De Vries, correspondant à Paris d'Euronews et d'RTL Pays-Bas. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous dans ce téléphone sonne. Une réaction, Yael Gauz.
Oui, je crois qu'on est en milieu du guet en fait en France. C'est-à-dire qu'on est à la fois attaché à une république somptuaire, symbole de cette Ve République, d'une puissance avec le décorum, l'apparat qui va avec, et la république sobre qui arrive et qui finalement vient aussi de notre ouverture à l'Europe et aux autres traditions politiques et culturelles ailleurs en Europe. La difficulté en ce moment, c'est qu'on a l'impression que le personnel serait politique serait corrompu ou aurait des pratiques comme ça absolument d'un autre temps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de contrôle, il y a plus de règles, donc forcément il y a plus de loupes. Et plus il y a de loupes, plus on voit des choses qui remontent et qui étaient sous les radars et qui viennent d'une époque un peu révolue. Parce que quand De Rugy se fait épingler sur ses frais de mandat, on parle de 2013-2014.
C'était avant la loi, avant les nouvelles règles.
C'était avant la loi. La liste des dépenses autorisées ou interdites, c'est 2015. Donc effectivement, c'était à l'époque pas conseillé de faire ce qu'il a fait.
Ah non, et pas forcément moral.
Non, c'est interdit.
Alors, 2013-2014
Pour le coup,
il y a une zone grise.
Non, vraiment non. Autant pour l'histoire du homard, des vins, on peut considérer que
zone
c'est
grise.
C'est là, on peut mettre sur la table la question de la moralité.
Oui.
Autant sur le paiement avec son indemnité des cotisations politiques, c'est interdit, et c'est interdit depuis longtemps. La commission de contrôle des comptes l'a d'ailleurs rappelé en 2012-2013 dans son rapport d'activité. C'est pas récent. Donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec notre journaliste. C'est il y a une question de moralité sur les deux premiers faits sortis. Sur la dernière, c'est totalement illégal. Ce sont des faits sanctionnables.
Alors ça, depuis la loi du 11 mars 1988. Donc, s'il y a...
Oui.
Eh ben, autant pour moi, je prends des choses.
Alors,
merci.
Mais c'est la preuve que tout cela n'est pas absolument clair pour tout le monde.
Bah après, il y a peut-être aussi un autre point qu'on doit aussi souligner. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les pays scandinaves, les pays du Nord, ils ont une certaine tradition de rigueur, etc. Il y a deux choses aussi qui jouent, je pense, pour eux. C'est que déjà, le parlementaire, je parle sous votre contrôle, une fois que la journée de travail est finie, ce sont des gens qui rentrent chez eux. Alors que les députés, parce qu'il y a un agenda législatif qui est surchargé, ils sont aussi sur place. Et donc il y a une déconnexion peut-être avec la vie du quotidien. Le fait par exemple d'aller faire ses courses, d'aller chercher son pain, aller au pressing, des choses comme ça. Parce que l'Assemblée, c'est aussi un cocon. Hein. On a un petit peu tout sur place et j'avoue qu'il y a un certain confort.
Alors,
il y a un autre point aussi. Donc, déjà de base, les politiques dans les pays du Nord, mais ils sont déjà ancrés dans la vie réelle et le schéma politique fait qu'ils restent dans la vie réelle aussi avec des journées de travail à peu près classiques. C'est pas le cas des députés français avec des journées à rallonge. L'autre point, c'est que chez eux, ils ont des familles royales. Hein. Parce que nous, on est très attachés justement à ce côté grandeur de la République et les ors, etc. Et effectivement, dans les pays scandinaves, ils ont peut-être pas forcément ça, mais eux, ils ont tous des familles royales quasiment. En Suède, c'est le cas. Pays-Bas, il me semble que c'est le cas aussi. Le Danemark, c'est le cas aussi.
Qui coûte beaucoup plus cher, peut-être, que les ors de la République.
Ah bah, oui. Ouais, ça fait des sous.
Christine Pires-Bonne.
Alors, juste peut-être sur est-ce qu'on est déconnecté. Non, parce qu'il y a le temps à l'Assemblée. Et là, vous avez raison, c'est des journées hyper chargées quand on est à Paris. Mais il ne faut pas oublier que les parlementaires, ils ne sont pas qu'à Paris. Ils sont aussi sur leur circonscription. Moi, je fais mes courses et je vis, quand je suis en circonscription, je fais ce que je faisais avant. Attention aussi. Et c'est pour ça que c'est important, parce que dans la loi, dans la future réforme constitutionnelle, moi je me bats pour que on n'ait pas des circonscriptions encore plus grosses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Moi, ma circonscription, c'est 138 communes. Oh. C'est le nord-ouest du département du Puy-de-Dôme. C'est un territoire immense. J'ai besoin, effectivement, d'aller à la rencontre des habitants, mais pas seulement ceux qui vivent près de chez moi, dans toutes les communes. Et c'est important, vous avez raison, parce que si on ne vivait qu'à Paris, qu'à l'Assemblée nationale, on serait totalement déconnecté.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
La transparence de la vie publique à tout prix, point d'interrogation, c'est ce dont on débat ce soir dans le téléphone sonne. Et c'est Fabrice qui nous appelle de Caen. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Écoutez, c'est très simple. D'abord, je vous remercie de me donner la parole. Deuxièmement, je comprends que d'être élu, n'importe quel élu, c'est compliqué. Alors, il y en a qui font bien leur taf, il y en a qui font pas bien leur taf. Voilà, c'est comme partout, en fait, quoi. Je pense que de toute façon, on va être obligé de vivre après les Gilets jaunes. Et justement, ma question, elle est assez simple. En fait, je me dis, quand on, par exemple, on peut être convoqué. Moi, je peux être convoqué comme juré pour une cour d'assises, pour décider de la vie de quelqu'un, en fait. Lui donner 10 ou 15 ans de prison. Alors évidemment, on a des gens qui nous aident par rapport à ça. Mais je me demande si ce serait pas intéressant finalement de dire on fait pareil pour le Conseil des ministres. Alors évidemment, c'est pas sur les questions de défense, sur les trucs top secrets, évidemment.
Vous voulez dire des citoyens qui assisteraient au Conseil des ministres?
Voilà, par exemple.
Comme on assiste au Conseil municipal, par exemple.
Voilà, par exemple, ou au Conseil municipal, c'est-à-dire qu'on serait, on participerait vraiment à la vie citoyenne. Voilà. Et il y a un autre truc aussi que je me dis, moi je suis en Normandie, mon grand-père était résistant, et juste après la guerre, il y a eu le Conseil national de la résistance. Et plus personne n'en parle, alors qu'en fait c'était des gens qui étaient politiquement différents les uns des autres, mais qui ont réussi à se solidariser à un moment donné pour la citoyenneté. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui comment on ne peut pas avoir cette transparence, en fait. Tout à l'heure, votre correspondant aux Pays-Bas disait qu'on est un peu un pays archaïque. Évidemment, je ne sais pas s'il faut faire la... Moi, je ne suis pas suffisamment compétent pour savoir s'il faut faire la 5e ou la 6e République ou la 7e République même. Mais par contre, je trouve ça extrêmement important que la vie citoyenne, elle pourrait être complètement... on pourrait très bien imaginer que, autant on peut participer à un tribunal et à la vie, à la destinée de quelqu'un, on peut le faire aussi pour le gouvernement.
Bien compris, Fabrice. Une plus grande participation des citoyens à la vie politique, Yael Gauz.
C'est très intéressant ce que dit Fabrice, parce que c'est justement ce qui a un peu turbulé dans l'esprit d'Emmanuel Macron et de ses proches depuis les Gilets jaunes et depuis le grand débat. C'est comment faire entrer les Français dans les cuisines de la politique. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est pas simple de cuisiner tous les jours un projet de loi, de convaincre. On va vous emmener avec nous, vous allez voir.
Il y a déjà cette convention citoyenne.
Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler, Yves. C'est la convention citoyenne pour la transition écologique. Alors, qui met du temps à se mettre en place, mais le tirage au sort aura lieu normalement début septembre. Et là, pendant 6 mois, vous avez 150 Français tirés au sort qui vont devoir se frotter aux vraies questions. C'est-à-dire, comment on fait la taxe carbone? Est-ce qu'on la refait? Et comment? Et comment on isole les bâtiments, la rénovation énergétique? Ça coûte combien, avec quelle niche fiscale ou quelle fiscalité. C'est très concret. Effectivement, c'est ce qui nous manque peut-être en France aujourd'hui. Et par tâtonnement, peut-être qu'on va y arriver.
Et puis en rappelant qu'on peut toujours s'investir, c'est beaucoup plus facile dans la vie locale, dans les élections locales. J'aimerais vous faire part de cette réflexion qui nous arrive par mail à propos d'une phrase prononcée par François de Rugy dans le JDD dimanche, qui a dit « En France, le modèle, ce n'est pas la barre chocolatée de la ministre suédoise. » On se souvient de cette affaire dont on a beaucoup parlé, c'était en 95, je crois, une ministre qui a dû démissionner pour avoir acheté avec la carte de crédit de son ministère une simple barre chocolatée et d'avoir fait ses courses. Il n'y avait pas que la barre chocolatée. Selon lui, donc, demande cette auditrice, selon François de Rugy, quel est donc son modèle sur l'échelle allant de Mobutu à la ministre suédoise? Où se situe François de Rugy, Christine Pires-Beaune? Où faut-il se situer entre les deux extrêmes? Faut-il aller jusqu'à ce dont nous parlait notre correspondant?
Écoutez, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire en matière de transparence. On a évoqué la déontologue à l'Assemblée nationale, mais effectivement, la déontologue, elle a été nommée par le président de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai aucun problème avec un organisme indépendant qui viendrait contrôler nos comptes. Néanmoins, il y a encore les membres du gouvernement, par exemple, qui ne sont contrôlés, eux, par personne. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Mais moi, je voudrais pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'en matière de transparence, il y a peut-être à regarder du côté des conflits d'intérêts. Je pense que c'est beaucoup plus important, me semble-t-il. Les fonctionnaires qui font des allers-retours, par exemple, entre le public et le privé, je pense que là, il y a matière à regarder.
Alors que pour les députés, c'est encadré. Hein. Et beaucoup de professions sont interdites.
Oui, tout à fait.
Depuis la dernière loi.
Oui. En théorie, pour les fonctionnaires aussi. Hein.
Tout à fait. Oui, moi, je suis fonctionnaire. J'ai dû démissionner, puisque on a justement un statut protégé, puisqu'on est en disponibilité. Mais dès le lendemain, dès le lendemain de l'élection, j'ai été en disponibilité. Ça existe. Voilà, je pense qu'il y a, en matière de conflit d'intérêts, en matière de lobby, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Frise à Catherine.
Dans le cadre du troisième rapport du projet Arcadie, qui portait justement sur le poids des lobbies au Parlement, je me suis amusée à passer un petit peu au crible tous les personnels des cabinets de conseil qui sont inscrits, enfin qui sont référencés sur le site de la HATVP. Donc ça fait un peu de boulot et effectivement.
C'est-à-dire la haute autorité
pour la transparence de la vie publique, qui gère aussi donc ce qu'on appelle communément les lobbies. Et quand on veut avoir, quand on veut rencontrer ce qu'on appelle des décideurs publics, donc des parlementaires, des ministres, des ambassadeurs, etc., il faut s'inscrire sur le site et puis déclarer ses intérêts. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent dans ces cabinets de conseil, qui sont du droit privé, qui sont eux-mêmes issus justement de la fonction publique. On a beaucoup de gens qui viennent du ministère des Outre-mer. On en a quelques-uns qui viennent de Bercy, donc les finances, économie. On a aussi pas mal d'anciens collaborateurs parlementaires, mais bon, eux, c'est des salariés de droit privé, donc j'ai presque envie de dire, il n'y a même pas de débat. Mais aussi, on a beaucoup de diplomates. Et en fait, le Quai d'Orsay est apparemment une sorte de vivier pour les cabinets de conseil, notamment pour les affaires internationales. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à caser tous les ambassadeurs sur des postes. Parce qu'il y a un problème au niveau du Quai d'Orsay et au niveau de l'Orient, puisque c'est la formation des ambassadeurs. Et du coup, ces gens-là, plutôt que de ne rester à rien faire, ils rentabilisent leur carnet d'adresse, notamment dans les cabinets de conseil. Et là, ça pose une question, on fait quoi avec eux ? Est-ce qu'on leur interdit de travailler ? Alors, il y avait la commission de déontologie de la fonction publique qui disait des choses. Là, elle va être fusionnée avec la HATVP. La question, c'est quelle va être son efficacité ? Parce que là, pour le coup...
Les moyens.
Et quels moyens ? Oui, parce qu'en fait, c'est aussi ça, il y a un truc qu'on n'aborde jamais. On dit il faut plus de contrôle, les lois elles existent, etc. Mais en gros on se rend compte qu'elles sont pas mises en place. Bah oui, mais en fait le problème c'est toujours le même, c'est qu'on met pas les moyens en face et on met pas les moyens sur la justice. Et ça on pourrait l'avoir dans le cadre de la transparence et du contrôle, mais on peut l'avoir sur tous les débats que vous voulez.
Mais justement pour donner aux députés, aux sénateurs plus de moyens de contrôle, peut-être faut-il qu'ils soient moins nombreux. C'est un peu ce que prévoit la réforme. Est-ce que c'est une bonne réforme ? Moins d'élus, mais plus de moyens. Plus de pouvoir, de contrôle.
On était en 1932, il y avait plus de députés qu'aujourd'hui. Il y avait 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 66 millions d'habitants en France. On est 577. Si vous rapportez le nombre de parlementaires au nombre d'habitants, on n'est pas du tout dans le haut de l'échelle.
On est même plutôt dans le bas de l'échelle.
Attention, parce qu'on ne peut pas en même temps demander de la proximité, revenir au débat qu'on avait tout à l'heure en disant il faut que les élus soient connectés, qu'ils soient en contact avec leurs électeurs, leurs citoyens, et puis dire on va diminuer le nombre. C'est pas possible. C'est juste incohérent.
Surtout si on rationalise pas l'agenda parlementaire, parce que quand on voit l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, franchement, il y a des moments, ça frise la stupidité. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est que les députés, et les sénateurs aussi, j'ai tendance à les oublier, mais ils sont là aussi. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient tout le temps à l'Assemblée, mais il faut qu'ils soient connectés au terrain, donc qu'ils soient près de leur circonscription, et puis qu'ils soient disponibles pour les médias, et qu'ils soient sur des événements locaux. Non, c'est pas non. Et en plus, l'histoire de plus de moyens aux députés, non, ça c'est une fable. Ce qui ne va se traduire en presque rien. De toute façon, moi j'ai envie de dire, on va mettre tout le monde à l'aise. La réforme constitutionnelle, je ne crois pas du tout qu'elle va voir le jour. J'y crois pas 30 secondes.
Un autre appel au standard du téléphone sonne, c'est Paul qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Paul.
Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de France Inter d'être encore connecté pendant les vacances. Bien, simplement que moi je suis un petit peu en colère, je viens d'entendre ce qu'a dit les députés, les maires, etc. Et là les actualités sont bien tombées parce qu'il y a un ministre qui a donné sa démission parce qu'il a mis les mains dans le confiteur, pardon j'emploie cette formule-là, et puis bizarrement il sera quand même député le lendemain. Eh ben moi je suis en rogne. Parce que je considère que quelqu'un qui a fait ça, eh bien, il disparaît de la politique. Il disparaît. Pas question qu'on refasse, on lui refasse ça, et puis après, il sera député, puis il remettra les pieds dans...
Mais quelqu'un qui a fait ça, il n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête judiciaire non plus, pour l'instant, à ce stade.
Pardon. Moi, à partir du moment... Oui, Cahuzac aussi, il a donné sa démission, et ensuite, on a vu ce qu'il en était. Moi, à partir du moment où il y a quelqu'un qu'on suspect d'un acte, qu'il soit maire, ministre, député, voire même conseiller municipal, c'est clair.
Il n'a pas de présomption d'innocence, donc.
Pas de présomption d'innocence.
J'ai une question. C'est la
question. Merci, Paul. On va vous répondre. Trissé Catherine.
Alors déjà, je me permets quand même de rappeler qu'on est dans un état de droit, la présomption d'innocence, ça compte un minimum. Oui. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été accusés à tort d'avoir fait des choses. Donc là, pour le moment, dans le cas de M. Rugy, il n'y a pas encore, à ce jour, pour le moment, d'instruction judiciaire qui a été ouverte, sauf erreur de ma part. Si c'est le cas, eh ben, il répondra devant la justice, comme ça a été le cas pour tous les autres. Qui établira s'il y a ou pas. Maintenant, encore une fois, député, c'est pas un métier, c'est un mandat. Donc, concrètement, on peut pas le démissionner. À charge pour lui s'il veut rester. Maintenant, si on part du principe que toutes les personnes suspectes sont bannies de la vie publique, il va plus rester grand monde, hein, parce qu'il faudrait aussi virer tous les gens qui ont un casier judiciaire. Typiquement, José Bové, il n'aurait jamais pu être élu. Alors que lui, pour le coup, il avait fait quelque chose et puis il l'avait revendiqué de manière assez...
La sanction démocratique, c'est les urnes. C'est le vote. Si François de Rugy, député, veut se représenter en 2022, mais il affronte le suffrage dans sa circonscription et il fait campagne, et ça passe ou ça casse.
En sachant qu'il ne se représente pas. Oui. Il a dit que ce sera son dernier mandat de député.
Mais donc, la vraie question du moment, le cas d'école de Rugy, c'est quel est le critère qui fait qu'un ministre tombe ?
Le casier judiciaire vierge, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, on ne l'a pas voté pour se présenter à une élection. Moi, je suis pour. Allons-y. Tenons cette promesse de campagne.
Alors, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un ministre à démissionner ? On peut penser que c'est la pression de l'opinion publique aujourd'hui, essentiellement.
L'impossibilité de se faire entendre.
Un spécialiste de la communication politique disait ce matin que les enquêtes journalistiques aujourd'hui sont dopées par l'agora numérique. Compte tenu de la vitesse de propagation de l'information, plus personne ne peut y résister. C'est ça aujourd'hui qui permet d'organiser les choses.
Et avec un phénomène qui a beaucoup interpellé en Macronie, c'est le côté goutte à goutte, les affaires perlées, les révélations perlées, alors que tout aurait peut-être pu être dit tout de suite, plutôt que de vivre ce supplice journalier sur François de Rugy, qui à la fin ne tient plus face à l'accumulation évidemment de révélations.
Un feuilleton qu'on a connu avec l'affaire Fillon, avec l'affaire Cahuzac, en fait, que tous les jours il y a une révélation et la pression est tellement forte que effectivement.
Peut-être que c'est pas fini.
Mais
les inspections, on n'a pas encore les résultats hein, pour l'hôtel de Lassay et pour son ancien logement de fonction de ministre. Ça doit venir dans les prochains jours.
On tire un fil, hein, expliquait Louis Plenel. On ne feuilletonne pas volontairement. Tout arrive sans qu'on s'y attende à partir du moment où la première information est sortie.
Oui.
Je vous sens sceptique.
Quand on a trouvé un sujet, évidemment, on le prend sous toutes ses coutures et on finit par trouver plein de choses. Donc il y avait visiblement une alerte sur François de Rugy. Ils l'ont épluché.
Ce qui expliquait aussi le canard enchaîné au moment de l'affaire Fillon. Fillon en rappelant que l'été précédent, c'était l'affaire Bayrou et que c'était la cellule d'investigation de France Inter qui avait révélé l'affaire. Un dernier auditeur, très rapidement, c'est Ghislaine.
Oui, bonjour.
Bonjour Ghislaine, bonsoir. Une auditrice alors.
Oui, une auditrice de Dombrolchec dans les Vosges.
Nous vous écoutons.
Mais je voulais réagir à un commentaire qui est sur le plateau, je ne sais plus son nom, mais elle disait que un député travaille énormément, il ne faut pas qu'on pense les Français, nous les Français, que un député est fainéant et qu'il ne mérite pas son indemnité, etc. Mais moi, par exemple, je suis agricultrice et je travaille aussi entre 50 heures et 100 heures par semaine. La moyenne, c'est 70 heures dans l'année par semaine. Donc, et je suis à peine au SMIC. Donc, l'argument me paraissait un peu faible pour dire, c'est pas si mal que ça, nos députés, par rapport à une réflexion d'un auditeur sur la République bananière. Moi, je pense que l'honnêteté, elle est. On est honnête ou on n'est pas. C'est pas à peu près. C'est pas la rigueur n'est pas négative. Hein, au contraire. Donc je pense qu'on doit vraiment prendre conscience de l'importance de la rigueur, de rendre des comptes, d'être conscient que quand on sert le bien commun, c'est une haute mission et qu'on ne doit pas dire mais je travaille beaucoup. Donc on pourrait entendre en substance, il travaille beaucoup donc il se sert un peu. dans le pot commun parce qu'ils n'ont pas assez. Donc,
ce n'était pas le sens de l'intervention de notre invité.
C'est quand même, il faut faire attention quand même à ça, à pas petit à petit dévier vers une excuse de nos énergies.
Bien compris, Ghislaine. Trissa Catriné, c'est vous qui aviez dit ça.
Non, c'est absolument pas le propos. Simplement, ce que j'expliquais, c'est quand on parle beaucoup de l'indemnité que perçoivent les parlementaires en disant qu'elle est trop élevée. Et moi, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bossent énormément dans ce pays. Moi, j'en fais partie puisque j'ai tendance à pas compter mes heures puisque je suis à mon compte. Simplement, c'est vrai qu'on a beaucoup aussi accusé les députés et les sénateurs d'être des feignants et de ne pas mériter leurs indemnités et de ne rien faire et de passer leur temps à la buvette. C'est-à-dire que c'est des caricatures qui tournent aussi et ça ne rend service à personne. C'est ça que je voulais rectifier. Maintenant, jamais de la vie, j'ai dit que parce qu'ils bossaient beaucoup, ils devaient se servir dans la caisse. Ça n'a jamais été mon propos.
En précisant que la démocratie, ça a un coût, de toute façon.
Oui, la démocratie, ça a un coût.
Oui, mais juste, je comprends, vous avez pas dit ça effectivement, mais je comprends, madame, agricultrice, je les revenais des agriculteurs, je connais ça par cœur. La seule différence, c'est que nous sommes rémunérés par de l'argent public et que donc l'exemplarité, c'est pas une option.
Ah,
voilà, c'est pas une option. On se doit, et c'est ce qui est reproché aussi à François de Rugy, c'est qu'on se doit d'être exemplaire quand on est rémunéré par de l'argent public. Il n'y a pas de choix.
Et lever le secret dépense, comme vous avez dit.
Et lever le secret dépense, comme j'ai dit dans une tribune, effectivement, il y a quelques temps.
C'est très joli. Le secret dépense, on y arrive. Le secret dépense, c'est plus compliqué.
Il y a encore des efforts à faire.
Merci beaucoup, Christine Pires-Beaune, députée PS du Puy-de-Dôme, membre de l'Observatoire de l'éthique publique, Trissa Catriné, fondatrice et gestionnaire de l'organe de contrôle de la vie parlementaire Projet Arcadie, que chacun peut aller consulter pour avoir des renseignements sur son député. Merci, Yael Gauze, chef du service politique de France Inter.